juste faire semblant. OK. L'imposition des mains a été dure la semaine passée. Je suis ressorti blessé là, de là. Je pense que c'était René de ce côté-là, en train, hein? Non, je suis pas vraiment blessé. Mais je voulais susciter votre attention ce matin pour voir qu'est-ce qu'on pense quand on voit quelqu'un qui a de l'air blessé comme ça. J'essaie de penser dans ma vie les quelques blessures que j'ai eues et je me souviens avoir eu à quelques reprises des plâtres parce que je m'étais cassé, par exemple, le bras ou bien la cheville. Et puis, quand je me suis cassé, la cheville, par exemple, j'étais allé à l'hôpital et puis ils m'ont mis un plâtre dans le but de prendre ma cheville dans un morceau pour plus que je puisse la bouger, pour que ma cheville puisse se réparer. Imaginez, par exemple, qu'il vous arrive un accident et qu'on vous place un collet cervical parce que vous avez des vertèbres de cassé. Vous avez le cou cassé. Et là, le médecin, il dit, tu dois porter ton collet pendant 3 mois. J'ai jamais porté de collet cervical, mais je pense que ça ne doit pas être agréable. Qu'est-ce qu'on fait quand le médecin nous dit ça? Oh, ça me tente pas ben. Je préférerais mieux pas. Qu'est-ce qui est triste dans quelqu'un qui porte, par exemple, un plâtre ou une écharpe comme ça, une écharpe ou bien un collet cervical? Est-ce que c'est tant le plâtre qui est triste? Est-ce que c'est de porter le collet cervical qui est triste, qui est dommage pour la personne? Ou c'est le fait que son état a des problèmes? Est-ce que c'est le fait que le cou il est cassé qui est triste? C'est beaucoup plus ça qui est triste. Et si je réalise que j'ai besoin du collet cervical, par exemple, pour que mon cou se répare, après, si le médecin a dit 3 mois, après 3 jours, je ne vais pas prendre mon collet et dire « Tiens, là, n'ai plus de besoin, je t'en ai. » Parce que je sais très bien que mon état en a de besoin. Je sais très bien que mon cou en a de besoin et c'est ça qui va m'aider à fortifier mon cou et à le réparer. Je pense pas que je vais garder ça tout le long. Je pourrais pas gesticuler autant que René. Hein? Ouais, peut-être que je vais te le prêter la semaine prochaine. Mais, ouais, on va l'enlever tout de suite, parce qu'on me tenait assez vite. OK. Les épreuves qui arrivent dans nos vies, on devrait les percevoir un peu semblables à ça. C'est-à-dire que ce qui est triste des fois dans notre vie chrétienne, c'est ce que Dieu est capable de voir dans notre être, dans notre personne, et de voir notre état qui a besoin d'être fortifié. De voir notre état qui a besoin d'être réparé, qui a besoin, ou est-ce qu'on a besoin de faire un pas de plus dans notre vie chrétienne, parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et quand on a la perspective que Dieu permet les épreuves dans nos vies, pour qu'on puisse être fortifié dans notre foi, être fortifié dans notre relation avec lui, ça va changer notre perspective, où est-ce que l'épreuve, on ne la verra pas juste comme un collet qui fait que ça pique en dessous un plâtre, puis c'est tannant, mais on va comprendre que l'épreuve est là, parce qu'elle va réparer quelque chose dans ma vie. Elle est là parce qu'elle va faire quelque chose de bien dans mon être et dans ma personne. Ce matin, je vais utiliser un texte qu'on a vu au cours de la dernière année, un dimanche soir. Et c'est un texte que j'aime beaucoup. On va le voir différemment, où est-ce qu'on va sortir la perspective de l'épreuve à travers ce texte-là de l'Ancien Testament. C'est un roi qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et je me déculpabilise en utilisant encore ce texte-là, parce qu'il revient 3 fois dans l'Ancien Testament. À part les évangiles, il n'y a pas beaucoup d'histoires qui reviennent comme ça, presque intégralement. Et cette histoire-là revient. Évidemment, les rois et les chroniques se ressemblent beaucoup. Mais je veux qu'on voit l'histoire d'un roi ce matin, à savoir comment est-ce que lui a vécu une épreuve, comment est-ce que nous, on peut appliquer ça dans nos vies aujourd'hui avec les épreuves que l'on peut avoir. Alors, on va faire un mot de prière et après ça, je vais vous inviter à tourner dans Chroniques. 2 Chroniques. Prions. Seigneur, je viens devant toi pour premièrement t'adorer. C'est à cause de toi, Seigneur, qu'on est là. C'est à cause de toi si on peut te connaître. Tu nous as aimés. Tu as fait un pas vers nous, Seigneur. On est tes enfants. Tu te soucies de nous. Tu nous aimes et tu veux nous transformer nos vies, Seigneur. Encore aujourd'hui, pas juste à partir du moment de notre salut, mais encore aujourd'hui, tu veux nous transformer. Je te prie que ce matin, les Écritures puissent pénétrer nos têtes. Pénétrer nos cœurs, Seigneur, mais que surtout et par-dessus tout, qu'on les mette en pratique. Que tu nous montres clairement qu'est-ce qu'on doit faire avec pour qu'on t'obéisse, pour qu'on te ressemble de plus en plus, pour qu'on garde courage à travers les épreuves par lesquelles on peut passer. C'est dans ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Je voulais vous donner une parole d'encouragement ce matin. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Et si cette parole-là d'encouragement s'applique plus ou moins parce que tu ne te sens pas nécessairement dans l'épreuve présentement, bien, ça va venir, puis tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Mais Dieu nous laisse sa parole pour qu'on puisse savoir comment s'en sortir. Je vous invite à tourner dans 2 Chroniques, le chapitre 31. Un roi que j'aime beaucoup, Ézéchias. Ézéchias, juste pour faire rapidement le contexte, il y avait 2 royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud, et le royaume du nord avait abandonné l'Éternel. Uniquement les rois qui étaient au royaume du nord, ont tous été des mauvais rois. Tandis qu'à Juda, là où il y avait Jérusalem, le temple, il y a eu en alternance des bons rois et des mauvais rois. Et Ézéchias était un bon roi. Est un homme où il est arrivé dans une période où le peuple était très refroidi par rapport à Dieu. Ils avaient oublié Dieu, ils avaient oublié le culte, ils avaient oublié c'était quoi la Pâque, ils avaient oublié le temple, ils avaient oublié les sacrificateurs, puis les gens vivaient un peu comme ils voulaient. Et puis Ézéchias arrive et puis rétablit l'ordre spirituel, si je peux dire. Alors on voit Ézéchias qui arrive et qui, par exemple, très tôt rétablit la Pâque, qui est une mémoire pour le peuple d'Israël à se souvenir qu'ils ont sorti d'Égypte, comment est-ce que Dieu est intervenu. Et ils ont fêté la Pâque. Il a même invité les gens du royaume du Nord, parce qu'il y avait une forme de chicane entre les deux, même invité les gens qui voulaient honorer l'Éternel du Nord à venir à Jérusalem pour adorer Dieu, adorer l'Éternel. Ézéchias a rétabli aussi le temple, l'ordre dans le temple, où les sacrificateurs n'y en avaient plus. Et Ézéchias a dit, on doit se replacer les Lévites dans leur fonction pour qu'ils puissent servir à l'Éternel, parce que les Lévites étaient les conducteurs spirituels du peuple. Et on en avait besoin des Lévites, des sacrificateurs. Alors, il les a rétablis. Il a rétabli les offrandes aussi pour que les Lévites puissent continuer d'être pris en charge, si on peut dire, selon la loi, pour qu'ils puissent se dévouer complètement à leur service de Lévites, sacrificateurs. Et on va lire, pour terminer le contexte de ce que je viens de dire, quelle conclusion est-ce que l'on a à la fin des premières années, si je peux dire, très tôt, d'Ézéchias. On arrive dans 2 Chroniques 31. On va lire les versets 20 et 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Un peu ce que je vous ai raconté et plus. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison et pour la loi et pour les commandements. C'est la conclusion que les Écritures tirent de la vie, du moins du début de la vie d'Ézéchias, à savoir qu'Ézéchias est un homme qui a vraiment recherché le bien, qui a vraiment été un leader spirituel pour son peuple, et comment est-ce qu'il a rétabli l'ordre, et comment est-ce que Dieu était content, évidemment, de ces choses-là arrivent, comment est-ce qu'il a fait le bien, puis il a agi de tout son cœur. Ce matin, je vais vous poser 3 questions. Avant qu'on aille plus loin, on va se poser 3 questions en ce qui concerne la détresse, l'angoisse ou les épreuves à travers lesquelles on peut passer. Et la première question qu'on va se poser ce matin, pourquoi les épreuves? Pourquoi les détresses arrivent? Pourquoi ces choses-là arrivent? Quand on vit une épreuve puis qu'on se retrouve dedans, on va peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu ça? Et on est sur le point d'arriver dans la vie d'Ézéchias où ce qu'Ézéchias va vivre une épreuve dans sa vie. Est-ce qu'il avait fait le bien, Ézéchias? Oui, il avait fait le bien. Et pourtant, une épreuve se prépare pour lui dans sa vie. On va continuer de lire le verset 1 du chapitre 32. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que Sanchérib est arrivé? Après ces choses. La première phrase que l'on a, après qu'Ézéchias a tout fait ça, après ces choses, est apparu Sanchérib. Il y avait un royaume, l'Assyrie, qui était un peuple très puissant, dont le roi était Sanchérib. Et Sanchérib avait une grande armée, et ils avaient des serviteurs aussi. Sanchérib est en train, il est en train d'attaquer une autre ville, et il envoie un serviteur vers Jérusalem qui va venir parler à Ézéchias pour dire, prépare-toi, je m'en viens. Tout bien d'abdiquer le plus vite possible parce que je m'en viens, puis t'es fait. On va voir la suite de l'histoire tantôt. Mais la première question que je vous pose ce matin, pourquoi la détresse? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Ézéchias avait fait le bien, Ézéchias avait rétabli l'ordre, il voulait plaire à son Dieu, puis arrive l'épreuve? Bien, je pense qu'on peut comprendre à travers les Écritures quatre réponses à cela. On va répondre à la fin de ces réponses-là, pourquoi Ézéchias a vécu ça. Mais pour nos vies personnellement, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir des épreuves? Mais il faut comprendre qu'il y a des difficultés relatives à nos propres péchés aussi. Il y a des épreuves que l'on vit à cause des péchés que nous-mêmes on fait. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, dans un sens où ce que Dieu ne veut pas que l'on pêche. Dieu ne veut pas que l'on soit sujet à nos propres conséquences, les propres conséquences de notre péché. Ce n'est pas le désir de Dieu, mais il y en a. Et si je pêche, et quel que soit le péché, il y a des conséquences, et ces conséquences-là, quand elles me rattrapent, bien, c'est moi qui me les ai créées. Alors, il y a des conséquences qui sont relatives à mon propre péché. Tout péché a des conséquences. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner aussi. C'est ce qu'on voit dans Galates. Si je sème selon l'esprit, je vais récolter selon l'esprit. Puis si je sème selon la chair, je vais récolter la corruption. Je vais récolter des choses qui ne durent pas. Je vais récolter mes propres conséquences de mon péché, malheureusement. Et puis, on pourrait citer l'exemple d'Adam et Ève, où est-ce qu'ils ont eu des conséquences de leur propre péché. Ou Achan, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire d'Achan? C'est un petit peu loin, vous le lirez dans Josué 7. Mais Achan est un homme que son propre péché l'a rattrapé. Puis Dieu les avait prévenus dans Nombre. Si vous faites un péché, soyez sûr qu'il va vous rattraper. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on vive des détresses, des épreuves face à nos propres péchés. Mais dans un sens, ce que Dieu veut qu'on s'en relève, c'est en les confessant nos péchés. C'est en obéissant à la parole aussi. Et de cette façon-là, on va s'en relever. On va se relever de nos fautes aussi, de nos péchés. Et dans sa miséricorde, dans sa grâce, Dieu va permettre qu'on passe à travers aussi et de rétablir une relation aussi avec Dieu, parce que Dieu va nous restaurer. Mais il y a de l'espoir aussi là-dedans. Mais évidemment, il faut faire attention de nos choix, de nos propres, de ce qu'on va moissonner. Quoi qu'il en soit, le croyant n'est pas sans ressources, mais même après avoir été pardonné, les conséquences de son péché, souvent, des fois, peuvent continuer. Ce qu'on voit avec différents exemples. Une deuxième raison pour laquelle on pourrait vivre des épreuves, c'est les difficultés relatives à l'état présent du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des conséquences. On va tourner dans Romains 8. Gardez un doigt dans 2 Chroniques. On va lire deux versets. L'intention qu'il y a à travers nos lectures ce matin est de comprendre pourquoi les épreuves peuvent arriver à nous et de comprendre comment s'en relever aussi, de savoir comment le faire. Et il y a des conséquences relatives à nos propres péchés, mais il y a des difficultés relatives aussi à l'état présent du monde. Ce qu'on voit dans Romains 8, le verset 20 à 22, on va lire par exemple, Romains 8, 20 à 22, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'il y a des conséquences sur la terre où ce que la création entière souffre les conséquences du péché. Et ce n'était pas dans le plan initial de Dieu. Bien, à cause du péché qui est entré dans le monde, c'est étendu à tous les hommes, la création elle-même aussi souffre à cause de cela. Et qu'est-ce qui se produit? Bien, il y a des difficultés que l'on vit, que même les incroyants vont vivre aussi des épreuves à cause des conséquences globales, si je peux dire, du péché. Par exemple, on pourrait citer les accidents, la maladie, la mort, la famine, des tempêtes. Il y a des conséquences qui sont relatives au péché. La conséquence globale du péché sur le monde entier, sur la création. Et nous, en tant que croyants, on a l'avantage, par contre, que de pouvoir s'attacher à Dieu. Même si on est soumis à des conséquences qui sont globales, si je peux dire, sur la création, mais on a Dieu auquel on peut s'accrocher. Et si on continue de lire dans Romains 8, on arrive au verset 28, qui est la continuité de ce qu'on vient de lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu désire notre bien, même si on est soumis des fois à des épreuves qui sont terrestres. Quand on s'accroche à Dieu, Dieu permet que les choses concourent quand même à notre bien. Et une autre réponse que l'on a aussi, on va revenir bientôt dans 2 Chroniques, mais il y a des difficultés aussi, des épreuves que Dieu permet pour notre éducation en tant que croyant. Parce que Dieu veut nous apprendre des choses. Dieu veut t'apprendre des choses. Il veut m'apprendre des choses. Et Hébreux 12, 7, je vous le lis, nous dit « Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Il s'agit donc d'une formation, d'une éducation que Dieu veut nous donner. Est-ce que moi, je vais punir les enfants de mon voisin? Non, parce que ce n'est pas mes enfants. En tout cas, je ne le fais pas pour moi, là. Et je ne pense pas que vous le faites non plus, selon l'ordre naturel des choses. Mais par contre, nos enfants, on les aime et on veut qu'ils apprennent les choses droitement. On veut les éduquer. On veut leur enseigner des choses, leur faire connaître la vérité. Et à cause de cela, on va les éduquer. Puis on va redresser des fois les parties de leur vie qui sont croches un peu pour qu'ils apprennent aussi. C'est un peu ce que Dieu veut faire avec notre foi. Reculer, on va revenir dans Deutéronome. On va se rapprocher de deux chroniques pour mais reculer un petit peu plus en arrière. Deutéronome 8. Le verset 2. Deutéronome 8, 2, ça dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. » Dieu a éprouvé son peuple pour connaître, pour savoir. Évidemment, Dieu le savait, mais il voulait que ces choses-là soient révélées. Il voulait mettre à l'épreuve son peuple pour son bien aussi. Dieu nous place des fois dans des épreuves, pas parce qu'il veut absolument qu'on porte un carcan, qu'on porte un collet qui fait qu'on va devenir inconfortable, mais parce qu'il veut nous redresser, parce qu'il veut nous apprendre des choses, il veut nous éduquer. Et c'est ce qu'on lit au travers des Écritures, il veut mettre en évidence la disposition de notre cœur. Pierre, il dit que les épreuves sont là pour épurer notre foi. Jacques, il dit que les épreuves sont là pour nous rendre patients. Paul, il dit que c'est pour nous garder, par exemple, de l'orgueil. Vous vous souvenez, Pierre avait une écharpe dans la chair, et ça l'empêchait de s'enorgueillir. Et il trouvait ça difficile, mais c'était une chose qui était bonne pour lui, dans un sens. Paul, il dit aussi, pour nous former dans un ministère, pour nous perfectionner, que Pierre nous dit encore, pour notre sainteté, pour porter du fruit. Souvenez, Jésus, il disait, le Père, c'est le vigneron. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses vignes, le Père? Il les émonde. Qu'elle soit encore plus belle, pour qu'elle porte encore plus de fruits. Et Dieu fait ça dans vos vies. Dieu fait ça dans ma vie, où ce qu'il veut nous émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. Et ces difficultés-là, ces épreuves-là, sont là pour notre éducation, pour notre bien, pour ces raisons-là qu'on vient de nommer. Et il y a des difficultés relatives aussi d'un témoignage fidèle. On vit dans un monde en tant que croyant avec des incroyants. Et évidemment, on vit dans un monde, tout croyant fidèle rencontre de l'opposition par le seul fait qu'il vit, agit et témoigne dans un monde qui a crucifié son maître. Si je vis pour Jésus, si je parle de Jésus, j'obéis à Dieu, ben ça ne plaira pas à tout le monde qui est près de moi. Et il y a des épreuves qui sont relatives suite à un témoignage fidèle, à savoir qu'il y aura de la moquerie, de la solitude, de l'incompréhension, des persécutions, de l'emprisonnement, la privation de biens. Puis même la mort, on voit dans les Écritures que des gens ont été persécutés jusqu'à la mort à cause d'un témoignage fidèle. Les épreuves que Dieu permet qu'ils arrivent dans nos vies sont pour notre bien. Il y a des épreuves qui sont relatives à notre péché, que Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous sortir de ces épreuves-là, mais il y a des épreuves qui sont là. Et pourquoi Ézéchias, revenez dans 2 Chroniques 32, pourquoi Ézéchias a vécu cette épreuve-là? Certainement qu'il y avait du péché, par exemple, qu'il y avait un grand orgueil dans le cœur de Sanchérib de vouloir venir prendre Jérusalem. Et peut-être que Dieu a voulu faire passer Ézéchias par un moment de sa vie où ce que oui, sa royauté allait être mise durement à l'épreuve, mais où ce que ça allait révéler aussi qui il était et comment est-ce qu'il vivait vraiment sa relation avec Dieu. J'aimerais juste vous raconter une petite histoire avant que on continue de lire l'histoire d'Ézéchias. Il y a un jour, un homme se promenait dans le bois et puis il arrive devant un arbre où il voit un cocon. Et là, il voit des pattes qui essaient de sortir à travers le petit trou du cocon. Puis là, il regarde attentivement. Puis qu'est-ce qui se passe? On dirait que le papillon essaie de sortir. Puis il y a de la difficulté. Je vais l'aider un peu. Fait que là, il sort son canif. Puis là, il rouvre le petit trou un petit peu plus grand. Puis il regarde le papillon. Fait que le papillon, il a de la misère encore à sortir. Puis le gars, j'ai pas toute ma journée, moi, regarder le papillon. On va l'aider encore un petit peu parce qu'il a l'air d'avoir de la difficulté. Fait que là, le monsieur, il rouvre le trou encore plus grand pour que le papillon puisse sortir. Puis aussitôt, le papillon est sorti. Puis là, le monsieur il était attentif, il regardait, puis il attendait de voir comment est-ce que le papillon allait prendre son envol. Puis là, le papillon, il reste sur son cocon, puis il a l'air chétif. Mais là, il se dit, ben tu sais, il vient de naître, et puis bon, il vient d'être transformé. Mais il a toutes les ailes comme rabougries, comme séchées, puis le papillon vient pour presque voler, il tombe à terre, puis il reste à terre, et puis finalement, il s'envole jamais. Le monsieur, il continue sa route, mais ce que l'homme ne savait pas, c'est que le papillon avait besoin de l'effort nécessaire pour sortir à travers le petit trou pour que le fluide qui est dans son corps puisse se transmettre à ses ailes, pour qu'après ça, son corps puisse prendre sa force, ses ailes puissent prendre sa force à travers l'effort qu'il aura mis à sortir à travers le petit trou pour qu'il puisse prendre son envol. Mais des fois, on se sent comme ça, où ce qu'on regarde dans le petit trou, puis on se dit, il me semble que c'est difficile. Puis c'est dur, puis ça prend du temps à sortir. Puis on a l'impression qu'on voit Dieu là au bord, puis qu'il nous regarde faire, puis qu'il ne sort pas son canif pour nous aider à sortir du petit trou. Puis c'est volontaire, parce que c'est quelque chose qui est bon pour nous. C'est quelque chose qui est bon pour nous, parce que cet effort-là, cette épreuve-là, va nous permettre de passer à un stade dans notre vie où ce que notre relation avec Dieu se sera affermie. Où ce qu'en tant que croyant, que fidèle, on va pouvoir prendre notre envol où ce que notre relation avec Dieu, justement, se sera approfondie. Et il ne faudrait pas voir les épreuves où ce que, comme je disais tantôt, très tôt, on prend notre collet cervical puis on s'en débarrasse parce qu'il nous décourage. Mais de voir l'épreuve, que pourquoi est-ce que ça l'arrive? Mais parce que Dieu a quelque chose qui veut réparer en moi. Dieu a quelque chose qui veut m'apprendre. Dieu veut me faire passer par un chemin qui est peut-être difficile, mais où ce que je vais en sortir grandi. Et c'est comme ça que je devrais voir l'épreuve aussi. Et Ézéchias avait cette attitude-là, ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire. On n'a pas vu encore beaucoup de l'histoire, on a juste lu 3 versets, mais on va lire les versets 6 à 8 pour commencer. La deuxième question que je veux vous poser, en qui est-ce que je me confie quand vient une épreuve? Quand vient l'épreuve, peut-être vous ne vous posez pas la question aussi explicitement, à savoir en qui est-ce que je me confie? Sauf qu'on fait tous l'action de se confier soit en Dieu, soit en quelqu'un, soit en quelque chose. Parce que quand on a besoin d'aide, on cherche une ressource. Mais en qui je vais placer ma confiance? En qui je devrais le faire? Regardez 2 Chroniques 6 à 8. 2 Chroniques 32, 6 à 8. Juste avant, Ézéchias a rassemblé ses gens. Il a fermé les issues de la ville qui amenaient l'eau pour pas que les armées rentrent par là. Il a relevé la muraille. Il s'est donné des chefs militaires. Et puis, après ça, il parle au cœur de ses hommes. Verset 6. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Au verset 3, on voit au verset 2, Ézéchias voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, il a tenu conseil, il a fait des choses humainement, mais il est allé plus que ça, par exemple. Pour lui, ce qui est important, c'est quand il s'est adressé au cœur de ses hommes, au cœur de son peuple, puis qu'il a dit, « Ayez pas peur, parce que c'est Dieu qui est avec nous. Parce que lui, avec lui, est un bras de chair avec nous, c'est l'Éternel, notre Dieu. » Et on pourrait remarquer comment est-ce que, à travers le discours tantôt qu'on va voir du serviteur de Sanchérib, comment l'ennemi est tellement loquace. Comment est-ce qu'il parle et dit beaucoup de choses, et puis cherche à miner la confiance, la foi, puis qu'on a l'impression que Dieu n'a pas beaucoup parlé. On a l'impression que Dieu a laissé l'ennemi s'approcher, et puis que l'ennemi parle, et puis que maintenant il attaque. Et puis, mais en même temps, je pense qu'Ézéchias connaissait déjà son Dieu. Je pense qu'Ézéchias avait déjà placé sa foi en Dieu. Si je ne vis pas l'épreuve présentement, mais je devrais quand même déjà placer ma foi en Dieu, parce que quand elle va venir, je serai déjà prêt à passer au travers. Mais ici vient l'épreuve, puis j'ai complètement abandonné Dieu, puis je ne suis plus intéressé à Dieu, puis je ne me soucie pas de ce qu'il pense de moi. J'ai l'impression que Dieu est loin dans le ciel et puis il ne m'écoute pas. Mais quand va venir l'épreuve, ça va être encore plus dur, parce que ce que Dieu veut, c'est que je place ma foi en lui. Mais je vais devoir recréer des liens avec lui, ou recréer ma relation, redévelopper ma relation avec lui. Mais Ézéchias connaissait déjà bien son Dieu. Peut-être que Ézéchias se souvenait de son père David. David n'était pas directement son père, mais les Écritures associent les bons rois à David, parce que David est un homme de Dieu. Et puis peut-être que Ézéchias se souvenait comment est-ce que David, le bras de chair de Goliath, avait été anéanti par le bras de l'Éternel.